Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous sexo. Pas ce soir, trois petits mots qui bien souvent peuvent laisser deviner une possible faille dans la relation. Pire, si on la laisse faire, la fissure laissera place à un gouffre qui engloutira tout cru, toute trace d'une ancienne passion. Pas ce soir ou l'histoire d'un désir en fuite, comment vivre avec les décalages de désir dans la relation? Comment amorcer le dialogue sur ce sujet sensible et trouver des pistes de solutions? Je pose aujourd'hui mes questions à Laurence Dispo, psychologue, sexologue, thérapeute de couple et auteure du livre « Le désir de la femme, guide pour le couple, se comprendre et se retrouver » paru aux éditions Planète Santé. Laurence Dispo, bonjour et merci de nous faire le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos nombreuses questions.
C'est un plaisir pour moi, merci.
Rentrons tout de suite dans le vif du sujet pour mieux comprendre. Qu'est-ce qui différencie la libido du désir sexuel?
Alors, c'est une question qui est encore débattue entre professionnels, on n'est pas toujours d'accord. Moi, ce que je dirais, c'est que la libido, c'est une donnée individuelle de base. Qui est largement biologique. Donc, elle va être influencée par des facteurs biologiques. C'est les hormones, c'est l'âge, c'est les facteurs santé, c'est les traitements médicamenteux, tout ce qui va, en fait, influencer sur les hormones en tant que telles. Après, le désir sexuel, c'est plutôt un élan vers. Un élan vers une activité sexuelle, un élan vers l'autre, qu'il soit imaginaire ou qu'il soit réel. Donc ça, ça va laisser entrer en jeu des facteurs beaucoup plus psychiques et relationnels. Et ça va être influencé par des choses beaucoup plus contextuelles, comme justement le couple, la relation, comment on se perçoit soi-même au fur et à mesure de la relation.
Très bien. Et justement, quelles peuvent être les causes d'une baisse de désir?
Il peut y avoir un nombre de causes de baisse de désir chez la personne. Si on a écarté les facteurs plutôt santé et les facteurs plutôt psychologiques, comme un trouble psychique, on va aller regarder les causalités plutôt relationnelles. Donc, ça peut être un changement dans la dynamique du couple ou de la relation s'il y en a une. On va regarder aussi la période de vie. On sait que les rôles vont changer, qu'on va devenir parent si c'est le cas. Ça peut être une transition professionnelle, ça peut être n'importe quelle transition en fait dans la vie d'une personne ou d'un couple qui va faire que le désir peut être altéré.
D'accord, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de désir qu'on n'aime pas. Il peut y avoir différentes causes
pour vous venez
d'expliquer.
Tout à fait, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a pas mal de personnes qui souffrent dans leur désir et qui donc se disent « Ah tiens, il y a un souci de couple ou il y a un souci dans le sentiment amoureux », alors que ce n'est pas forcément le cas, ça peut être tout à fait autre chose.
Très bien, et alors quand il y a un manque de désir de la part d'une personne dans le couple, comment cela affecte-t-il le couple, justement ?
Ça va dépendre du couple. Il y a certains couples qui se définissent comme étant vraiment très centrés sur la sexualité. Pour ces couples-là, ça va être assez problématique. Il y a aussi des personnes pour qui la sexualité remplit une fonction importante de rassurance. Je me rassure sur ma désirabilité, je me rassure sur le sentiment amoureux de l'autre, est-ce que je suis aimée, est-ce que je suis proche de l'autre, via la sexualité. Dans ces cas-là, il va y avoir un certain degré de souffrance, il va y avoir des sentiments de rejet potentiellement. Ça va dépendre comment le couple gère toutes ces émotions profondes, tous ces sentiments de rejet, et ça va dépendre de leur danse relationnelle, comment ils gèrent justement l'expression de ces émotions-là. Ce qui arrive malheureusement chez beaucoup de couples, comme conséquence du décalage de désir, c'est un désinvestissement de tout ce qui est corporel. Donc le couple va me dire, bon ben voilà, ça fait un an qu'on se fait plus de câlins, on se serre plus dans les bras, on se fait plus de massage, on se fait plus de caresses, on s'embrasse plus dans certains cas, pour pas donner d'espoir à l'autre, pour pas se donner de l'espoir, pour pas devoir vivre le sentiment de rejet. Et là, c'est quand même assez problématique parce qu'on a pas seulement l'intimité sexuelle qui est altérée, mais aussi l'intimité, on va dire, émotionnelle et corporelle.
Mais au quotidien, ouais.
C'est ça, ouais. Et on nourrit beaucoup moins en fait l'affectif dans le couple. Là, ça devient d'autant plus problématique.
Oui, il y a plusieurs degrés du coup. Alors, c'est passons ça, à l'action. Comment réagir, comment dialoguer quand le couple n'est pas ou plus sur la même longueur d'onde en matière d'appétit sexuel? Comment agir pour éviter le conflit?
Alors, peut-être que le conflit en tant que tel, il n'est pas à éviter. Parfois, le conflit peut donner lieu à une discussion intéressante, peut donner lieu à des réajustements dans la dynamique de couple ou familiale. Donc, OK, le conflit, ce n'est pas forcément le diable. On peut discuter. On peut mettre les choses sur la table et on peut essayer de comprendre le décalage sur le plan relationnel. Il y a des éléments à comprendre sur le plan individuel, mais aussi peut-être des éléments relationnels dans certains cas. La deuxième chose par rapport au dialogue, c'est de regarder plus le côté émotionnel, le côté ben, comment est-ce que je veux me sentir dans la sexualité, comment est-ce qu'on veut se sentir dans la sexualité, plutôt que de regarder les histoires de performance, comme la fréquence, par exemple. Mmh. Donc, c'est plutôt regarder comment est-ce qu'on veut se sentir que combien de fois par semaine ou par mois est-ce qu'on veut le faire. Ça, c'est la première chose. Après, peut-être, on peut utiliser un support, on peut utiliser un livre, on peut utiliser un film, on peut utiliser l'aide d'un thérapeute ou de toute personne qui va être à l'écoute. Donc, on peut utiliser la présence d'une personne qui va nous aider, qui va nous guider.
D'accord. Et le premier conseil que vous donneriez, ce serait quoi ?
Alors, le premier conseil, je pense, que ce soit sur un plan individuel ou sur le plan relationnel, c'est de pouvoir s'adapter. C'est de se dire qu'au fur et à mesure que le couple grandit, au fil d'une vie, il y a des changements. Il y a des changements hormonaux, il y a des changements dans les rôles qu'on joue, il y a des changements dans notre perception de notre corps et de nous-mêmes en tant qu'homme, en tant que femme, ou quelle que soit notre identité. Et au fur et à mesure de ces changements, il va falloir pouvoir être souple, être fluide, être ouvert à s'adapter et à se dire, bon ben, on redécouvre l'autre, et on est en changement perpétuel.
D'accord, et on rappelle évidemment qu'on sait que souvent le consentement sexuel dans un couple reste un petit peu tabou, mais qu'un non reste un non. Voilà, et quand il n'y a pas d'oubli, généralement c'est non. Donc c'est vraiment juste, toujours.
Même si on a dit oui hier, aujourd'hui c'est pas oui forcément à la même chose. Ouais.
Et c'est bien de le rappeler. Alors, de façon plus générale, quels conseils donneriez-vous pour être heureux dans sa vie sexuelle ?
Bon, pour être heureux dans sa vie sexuelle, je pense que déjà bien se connaître soi, être au clair sur nos besoins, être au clair sur les fonctions que remplissent la sexualité pour nous, et être au clair sur les changements éventuels. Déjà refaire un petit point entre soi et soi de temps en temps, et avec le ou la partenaire si on en a, ou les partenaires, pour justement se mettre au courant des évolutions dont je parlais avant.
Parfois, il n'est pas simple justement de se poser les bonnes questions, que ce soit à soi-même ou même en couple. C'est là peut-être qu'on peut encourager à la consultation, parce que le problème de désir, j'imagine, c'est peut-être l'une des premières causes de consultation que vous avez en cabinet, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Ouais. Pas forcément le désir en tant que tel, mais le décalage dans le couple. Bon, moi, en tant que thérapeute de couple, j'ai surtout des couples qui viennent. J'ai aussi des personnes qui viennent en individuel pour la sexologie, mais il y a quand même un petit peu plus de personnes qui viennent en couple. Et du coup, leur problématique, ce sera comment est-ce qu'on gère le décalage. Décalage en termes de fréquence, ou alors décalage en termes de comment on vit les choses, de nos besoins en termes sexuels.
D'accord. Alors justement, c'est parfois pas facile de franchir le cap, d'aller voir une professionnelle. Vous avez tous les profils de personnes qui viennent vous voir. Vous parliez, donc vous avez beaucoup de couples parce que c'est l'un de vos sujets de base. Mais après, c'est un peu tous les âges, hommes, femmes, mélangés. Enfin, vous avez vraiment tout type de profils.
Ouais, c'est des fois étonnant de voir des gens qui ont 18 ans qui arrivent déjà en consultation, en couple ou pas. Et puis j'ai eu des personnes de presque 80 ans aussi qui sont venues consulter après un veuvage et qui voulaient réinvestir la vie sexuelle dans une nouvelle relation ou seule et découvrir des nouvelles choses, des nouveaux aspects de leur sexualité. Donc oui, c'est le panachage est assez large. Homme-femme, oui. Alors contrairement à la psychothérapie où je reçois plus des femmes seules, en sexologie c'est un petit peu plus égalitaire. Il y a une motivation aussi chez les messieurs. Et puis les couples sont souvent amenés par madame, mais aussi assez souvent amenés par monsieur. Pour des raisons différentes, les messieurs sont quand même aussi assez motivés de consulter pour la sexologie.
D'accord. Et pour un petit peu dédramatiser, pour les personnes qui se posent la question, qui n'osent pas franchir la porte d'un cabinet, comment se passe une première consultation avec vous, par exemple ? Est-ce qu'il faut du temps pour que les personnes se sentent en confiance et puissent se livrer ? Comment ça se passe concrètement ?
Concrètement, si c'est une première séance, on va d'abord prendre un petit peu de temps pour accueillir la souffrance, la demande, accueillir aussi la personne là où elle est, même avant de parler du motif de consultation, mais de voir un petit peu ce qui l'entoure comme contexte, ce qui est important pour elle, de quoi est faite sa vie. Et puis, gentiment, on entrera dans le motif de consultation. On pourrait prendre 3-4 séances pour faire une évaluation sexologique et ensuite se donner des pistes sur lesquelles on va travailler. À ce moment-là, on commencera à avoir des exercices en séance ou hors séance, ou des pistes de réflexion, des pistes qu'on va élaborer sur un plan plutôt psychothérapeutique en séance. Donc, ça va vraiment dépendre de ce qui va émerger de l'évaluation sexologique.
Et aller consulter seule ou en couple, quelle est la différence ?
Je dirais que Si on vit en couple, on aura une vue directe, une observation directe de ce qui se passe entre les personnes. Donc, on aura la dynamique relationnelle. On aura ce qu'on appelle la danse relationnelle. Comment est-ce qu'ils réagissent l'un l'autre aux dimensions émotionnelles de leur sexualité? Imaginons que madame se sente rejetée. Comment est-ce que monsieur peut accueillir ce sentiment-là, peut la rassurer, peut lui dire les mots qu'il faut? Si c'est monsieur, par contre, qui se sent repoussé, comment est-ce que madame peut prendre soin de ces émotions-là? Donc, on verra en direct, en séance, comment ils peuvent accueillir les émotions de l'un de l'autre et comment ils peuvent se parler pour qu'il y ait de la bienveillance, pour qu'il y ait du non-jugement, pour qu'ils puissent trouver ensemble des solutions. Donc, on va avoir directement un indicateur de est-ce qu'on va faire équipe ou pas. Si la personne vient seule, on a un partenaire imaginaire ou rêvé. S'il n'y a pas de partenaire, ben voilà, la personne souvent va venir en se disant « j'aimerais un partenaire » ou « j'aimerais une partenaire » ou des partenaires. Et on va inclure ces personnes symboliquement. On va les imaginer, on va les prendre en compte d'une certaine manière. S'il y a un partenaire réel ou une partenaire réelle, d'autant plus, on va aussi les prendre en compte. Mais ce sera différent parce qu'on n'aura pas in vivo la dynamique avec laquelle travailler directement.
D'accord. Combien de séances faut-il généralement pour régler un problème? J'imagine que ça dépend du problème. Est-ce qu'on peut un petit peu jauger?
Ça dépend énormément de là où la personne est, où le couple est quand ils arrivent. Ça dépend beaucoup de l'objectif aussi. Et pour ça, on va peut-être poser une question comme la baguette magique. C'est-à-dire, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez voir demain matin? Et par cette question, on va arriver à savoir quel est l'objectif. Est-ce que c'est surtout qu'ils veulent se sentir comme ceci ou comme cela? Est-ce qu'ils veulent diminuer tel ou tel conflit? Est-ce qu'ils veulent se sentir plus proches, etc.? Donc, on va prendre en compte l'objectif et puis proposer quelque chose. On va se dire, bon, ben, est-ce qu'on veut se voir quelque temps, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines? Dans certains cas, les personnes, pour x, y raison, vont nous donner une contrainte temporelle. Ils vont déménager, madame est enceinte et on sait qu'on ne va pas forcément continuer les séances au travers de toute sa grossesse. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on va mettre un cadre temporel. Ça, c'est OK aussi. Alors, je ne vais pas forcément dire qu'on sera arrivé à quelque chose d'entièrement satisfaisant, mais on peut aussi se donner un nombre de séances ou un nombre de mois si besoin.
Justement, j'imagine que ça crée une sorte de proximité quand même d'échanger un petit peu sur la vie intime de ces couples. Est-ce que, je ne sais pas, ils vous passent un petit coup de fil, ils vous envoient une carte pour vous dire « ça y est, tout est rentré dans l'ordre ». Comment ça se passe humainement, j'entends?
Alors, généralement, on fait une dernière séance pour se dire au revoir, pour identifier un petit peu les rechutes possibles, les facteurs de rechute possibles.
Il peut y avoir, oui.
Identifier les ressources qu'ils ont et puis auxquelles ils pourront faire appel, même s'ils n'ont pas forcément envie de revenir me voir tout de suite, dès qu'il y a un couac ou une fluctuation. Les fluctuations, ça fait partie de la vie. Donc, on va parler un petit peu de la suite. Et puis, bah, encore aujourd'hui, j'ai reçu un faire-part de naissance. Donc, j'ai des nouvelles après du deuxième, du troisième. Et la vie continue et ça fait plaisir.
Très bien. Alors, vous avez, je le disais en introduction, coécrit un livre qui s'intitule « Le désir de la femme, guide pour le couple, se comprendre et se retrouver », paru aux éditions Planète Santé. C'est sorti au mois d'avril. À qui s'adresse ce livre? Comment l'avez-vous construit?
Il s'adresse à un peu tout le monde, à toute personne, que ce soit homme, femme, autre identité et couple, bien sûr, qui s'intéresse au sujet du désir. Pas forcément le désir uniquement de la femme, mais du désir aussi plus large. Le livre est conçu pour donner vraiment des outils de dialogue et de compréhension de soi. Donc, il y a pour chaque chapitre, il y a 5 chapitres, chaque fois un bout de théorie, pas très compliqué, mais disons pour avoir quelques repères théoriques sur le sujet. Ensuite, il y a des continuums. Alors, les continuums, c'est simplement des axes sur lesquels on peut se positionner pour dire ben moi je suis plutôt de tel côté ou de tel côté. Par exemple, ben, j'ai plutôt un désir qui vient spontanément ou plutôt j'ai un désir qui vient de manière réactive. Donc, on va se positionner sur ces continuums pour avoir un outil de discussion avec l'autre ou déjà un outil de compréhension pour soi. Donc, chaque fois, il y a 4 ou 5 continuums. Ensuite, il y a une illustration clinique pour que les gens s'imaginent un petit peu comment on traite telle ou telle thématique en séance. Et puis, on finit avec des outils, donc des exercices pour se connaître soi-même, des outils de repérage de nos sensations, de nos fantasmes, de nos codes d'attraction, pour de nouveau avoir vraiment quelque chose de concret pour avancer dans la compréhension de soi, et des exercices aussi pour dialoguer avec le conjoint, le partenaire ou la partenaire. Donc, c'est vraiment conçu pour que les personnes puissent s'aider eux-mêmes, si vraiment besoin, évidemment, elles peuvent toujours consulter, elles peuvent, ça m'arrive hein, d'avoir des gens qui viennent avec le bouquin en disant, ben voilà, on en a discuté sur telle ou telle dimension, on voit qu'on est vraiment aux antipodes, qu'est-ce qu'on peut faire hein?
Oui, c'est ça. Donc, c'est parfait. C'est un bon guide, en fait, déjà, pour savoir où on en est. Et puis, comme vous le disiez, avec des petites informations pratiques. Et effectivement, donc, pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui se posent des questions, qui ont des difficultés dans leur vie sexuelle, il ne faut pas hésiter à consulter un ou une professionnelle comme vous. Comment fait-on pour vous consulter ?
Pour ma part, j'ai un site internet, www.psydispo.ch. J'ai un autre site qui est sexologiecouple.com. Donc, sur le site internet, il y a tous les détails pour pouvoir me trouver.
Il ne faut pas rester tout seul, surtout là, on vient de le voir. Et avec toute la bienveillance du monde, il existe des solutions à tous les problèmes. N'hésitez pas. Je remettrai toutes les informations, donc que ce soit les références de votre ouvrage et les liens vers vos sites dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez donc pas à la consulter si vous avez le moindre souci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et qui sait, peut-être à bientôt pour un prochain sujet.
Merci beaucoup, avec plaisir. Bon après-midi.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.